J'espère que c'est bon, vous êtes réveillés, que la louange vous a fait du bien. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a fait du bien. Et avant de commencer, je vous invite à avoir un moment pendant lequel on peut tout simplement se remettre entre les mains de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, cet après-midi, nous voulons encore une fois nous remettre entre tes mains. Merci pour cette vie que tu nous as donnée. Merci pour Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Et c'est cette raison pour laquelle nous nous réunissons chaque dimanche pour passer ces moments entre frères et sœurs et aussi pour t'adresser un culte de reconnaissance pour ce que tu fais dans notre vie. Et Seigneur, nous te prions pour que le message de cet après-midi puisse vraiment nous encourager pour notre marche avec toi. Je te prie ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous participons à un pot de départ, je ne sais pas si vous avez tous participé à un pot de départ d'un collègue ou peut-être d'amis de l'Église, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le discours. Soit on le force, soit la personne le fait d'elle-même. Et au moment où la personne commence son discours, là, tout le monde est attentif. Tout le monde va être à l'écoute. Pourquoi ? Parce qu'on sait que cette personne, on le fait pas juste par politesse, on sait que cette personne, on va plus la revoir avant un certain temps. Et du coup, ben, on va être à l'écoute de ce qu'elle va nous dire. Et peut-être que ça vous a aussi arrivé d'avoir des personnes, des membres de la famille, des amis à vous qui soit étaient gravement malades ou qui étaient déjà très âgés, et peut-être ces derniers moments que vous avez passés avec ces personnes-là et les derniers échanges que vous avez eus, les derniers mots que ces personnes vous ont donnés, vous avez été à leur écoute à ce moment-là. Parce que c'était probablement des mots qui peut-être allait avoir de l'importance tout au long de votre vie. Imaginez, Jésus-Christ passe la dernière nuit de sa vie terrestre avec ses disciples. Il passe son dernier repas avec les disciples. Il vient de leur laver les pieds et leur a montré à travers cela qu'ils devaient se servir les uns les autres. Il a attendu que Judas parte pour leur dire quelque chose de très profond. Il leur a dit qu'il devait partir à un endroit où aucun des disciples ne pouvait le suivre. Il a aussi donné un nouveau commandement qui était « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Jean 13, versets 34 à 35. Pierre, toujours le plus vif, dit qu'il suivra Jésus-Christ. Jésus lui répond, « Pierre, mais tu dis ça, mais tu vas me renier trois fois. » Qu'est-ce que fait Jésus ? Est-ce qu'il part ? Il le laisse comme ça ? Non. Jésus, au contraire, va rebondir sur ça et va dresser une révélation qui va changer toute la vie des disciples. Et il leur dit, dans Jean 14, versets 1 à 7. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Pour cet après-midi, je vais voir d'abord dans un premier temps, les versets 1 au verset 4, nous allons voir que Jésus est notre maison et notre réconfort. Et enfin, nous verrons que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Jésus est notre maison et notre réconfort. Tu peux passer, Denis ? Voilà. Comme les disciples viennent d'apprendre que Jésus va s'en aller, Jésus leur dit de ne pas laisser leur cœur se troubler. Et cette révélation, il n'a pas juste fait à Pierre, parce qu'il vient de dire à Pierre, tu vas me renier trois fois. Et il aurait pu juste le dire à Pierre, mais il va dire quelque chose, une révélation qui va être vraiment pour l'ensemble des disciples qui lui sont restés fidèles. Et il les exhorte à croire en Dieu et en lui. Je ne sais pas si ça vous fait penser à une autre histoire dans l'Ancien Testament, où on a Moïse, qui, vous savez, c'est un peu une image aussi de ce que Jésus-Christ va accomplir. Jésus va sortir le peuple d'Égypte de l'esclavage de Pharaon, des Égyptiens. Et Jésus-Christ qui nous sort lui-même de l'esclavage, du péché, de la loi. Et quand Moïse, il a fallu qu'il s'en aille, puisqu'il savait qu'il allait bientôt partir, il a donné le flambeau à son successeur, qui était Josué. Et Dieu lui-même a parlé à Josué et lui dit dans Josué, chapitre 1, versets 5 à 9, grosso modo lui dit « Fortifie-toi et prends courage, car je serai avec toi, tout comme j'ai été avec Moïse. Fortifie-toi et prends courage, car je serai avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. » Et après, on connaît l'histoire, hein, Josué qui a vraiment accompli qui a réussi à conquérir tout Canaan. Et de la même façon, Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples de se fortifier, de ne pas se laisser effrayer, inquiéter par son départ. En effet, s'il leur dit cela, c'est parce que il va leur préparer une place. Il va leur préparer une place dans le ciel avec Dieu. Il utilise cette image de la maison qui parle particulièrement aux disciples. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, ils ont passé 3 ans ensemble, tous les disciples, avec Jésus-Christ. Manger, boire, dormir. Jésus connaissait leurs habitudes, il connaissait leurs goûts, leurs dons. Leurs goûts, il savait s'ils voulaient manger épicé ou pas. Il savait toutes ces choses certainement. Jésus-Christ était quelque part leur maison. La personne qui fait que ils se sentaient à l'aise, estimés, aimés, valorisés. Ils étaient mis en valeur parce qu'ils étaient avec lui. Et là, Jésus dit qu'il va s'en aller. Mais Jésus dit qu'il va leur préparer une place. Et les disciples, ils ont toutes les raisons d'avoir confiance en Jésus parce qu'il connaît tout d'eux. Et je rebondis sur ce que Michael tout à l'heure a partagé. Et souvent, quand on passe une semaine, 24 heures sur 24, avec quelqu'un, probablement qu'on va mieux la connaître que des personnes qu'on voit juste une fois le dimanche, tous les dimanches. Parce qu'on se voit peut-être 3-4 heures et puis après, on retourne à notre vie. Alors que quand on passe une semaine ensemble, on se connaît beaucoup mieux. Ceux qui ont fait le campus ensemble ou les week-ends de rentrée, vous le savez. Et ben là, 3 ans ensemble, les disciples connaissaient vraiment qui était Jésus. Et la place que Jésus prépare pour eux, c'est la meilleure. Elle est avec Dieu, dans le ciel. Une seule condition, il faut croire en lui et en Dieu. Comment est-ce que ça peut nous s'appliquer à nous aujourd'hui? Peut-être que nous sommes plongés dans le quotidien de notre vie, dans nos vies où nous fixons des objectifs personnels, professionnels, ministériels, pour ceux qui sont dans l'église, qui se projettent vraiment très loin. Mais lorsque nous sommes la tête dans le guidon, comme on dit dans le boulot, est-ce que je crois que Jésus-Christ me prépare une place dans le ciel? Est-ce que quand je fais mon travail, je pense à l'éternité? Est-ce que je pense que Jésus-Christ a déjà préparé une place pour moi dans le ciel? Laissons-nous aujourd'hui être encouragés et rafraîchis par ces paroles de Jésus. Que ton cœur ne se trouble pas. Fortifie-toi et prends courage, car je suis avec toi. Vivons notre vie sur la base du psaume 23, qui dit que j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et cette maison, quelque part, on y est déjà à travers le Saint-Esprit qui vit en nous. Mais quelque part aussi, cette maison, nous l'aurons dans le ciel. C'est le déjà et le pas encore. Nous sommes en location. Mais bientôt, quand Jésus reviendra, nous serons propriétaires dans le ciel. Et Pierre dit que nous sommes des résidents temporaires et étrangers sur la terre, dans 1 Pierre 2, verset 11. Gardons donc en tête que nous avons été créés pour passer cette éternité avec Dieu, grâce à Jésus qui nous a réconciliés avec Dieu. Deuxième chose pour nous, qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous prions pour le retour de Christ? Est-ce que nous attendons avec impatience qu'il nous délivre de ce corps de chair? Ou est-ce que nous redoutons ce retour? Ou est-ce qu'en fait, on fait un peu notre vie et on se dit, franchement, j'aimerais bien qu'il ne vienne pas tout de suite, comme ça je peux peut-être avoir une femme, des enfants, etc. Ou peut-être que je peux d'abord faire d'autres choses, puis profiter de la vie. Et du coup, on redoute son retour de peur qu'il nous retrouve dans une mauvaise position. Là, on a des textes. Jésus dans Matthieu 24, il explique comment va arriver la fin du monde. Et au verset 42, il dit « Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. » Et dans Matthieu 25, verset 14 à 30, il parle de la parabole des talents. Vous savez, ces serviteurs qui reçoivent 5 talents, 3 talents, 1 talent, respectivement. Alors le talent, c'était de l'argent, mais c'est aussi par rapport à notre don. J'ai reçu beaucoup de dons. Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais les cacher, comme celui qui avait un seul talent? Ou est-ce que je vais les faire fructifier? Et vous connaissez la fin de l'histoire. Celui qui avait un seul talent, qui l'a caché, le maître l'a puni. Et ça a montré finalement il avait reçu quelque chose, mais il ne l'avait pas mis en pratique. Il n'était pas vraiment croyant. Jésus dit qu'il part, mais que ses disciples connaissent sa destination et le chemin pour y aller. Et ça peut être très intriguant, mais seulement au premier abord, parce que on va découvrir un message qui est vraiment merveilleux. C'est que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Deuxième partie, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et ça fait partie des 7 « je suis ». Je ne sais pas si vous connaissez l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, il y a 7 « je suis » de Jésus. Et chaque « je suis » nous annonce quelque chose sur la personne de Christ. Dans Jean 6, nous voyons que Jésus est le pain de vie. Il nous appelle à manger son corps, c'est-à-dire manger sa parole, son enseignement chaque jour. Dans Jean 8, on voit que Jésus est la lumière du monde, qu'elle brille parmi les ténèbres de notre vie et parmi les ténèbres du monde. Cette lumière, elle éclaire. Dans Jean 10, on voit que Jésus, c'est la porte qui nous permet l'accès au royaume de Dieu. Et enfin, dans Jean 10, 4e je suis, on voit que Jésus prend soin de nous, c'est notre berger. Il donne sa vie pour nous, parce que nous lui appartenons. Nous sommes ses brebis. Et là, 5e je suis, Jean 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et en une seule affirmation de Jésus-Christ, on a 3 mots, 3 choses que je vais développer un peu plus. C'est fou parce qu'avec une seule phrase, on peut dire énormément de choses tellement c'est profond. Le chemin, Jésus est le chemin. Jésus vient d'expliquer à l'instant qu'il va retourner au ciel et qu'il va préparer une place, on vient de le voir. Puis il explique qu'il est le chemin pour que les disciples puissent parvenir au ciel, là où est le Père. C'est fou parce que je me mets à la place des disciples. Ils ont passé 3 ans avec Jésus, manger, boire, dormir et l'accompagner. Et là, Jésus leur dit, je vais partir, je vais aller auprès du Père. Thomas lui demande, mais où est-ce que, enfin, comment, on sait même pas où est-ce que tu vas, comment est-ce qu'on peut savoir le chemin pour te rejoindre? Et là, Jésus leur dit, mais c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. En fait, ils avaient la solution devant eux. C'est juste incroyable. Ils l'avaient devant eux. Il est donc non seulement la porte, mais aussi le chemin qui se trouve derrière cette porte. La porte dans Jean 10. Voici que Jésus est la vérité. La vérité. Il n'est pas une vérité parmi tant d'autres vérités. Il est la seule et unique vérité qui demeure. Et s'il dit vrai, forcément, tous les autres disent faux. Y compris les autres religions. Les autres façons de penser. Jésus dit lui-même, par rapport à cette vérité qui est aussi la lumière, qu'il est venu pour éclairer les ténèbres et que ce qui est caché doit être mis à la lumière. Ce qui est caché doit être mis à jour. Dans Marc 4, verset 22. Il dit aussi dans Jean 17, verset 17, que ta parole est la vérité, en parlant de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est aussi Jésus-Christ. On voit aussi, troisièmement, que Jésus est la vie, et que cette vie la donne à l'abondance. La vie, pourquoi ? Parce que, premièrement, il est le créateur de la vie. Il a participé à la création du monde avec le Père et le Saint-Esprit. Dans Jean 1, verset 3, Colossiens 1, verset 16. Il nous donne aussi la vie éternelle, deuxièmement. Jean 3, verset 16, ce verset mondialement connu. Il est créateur de la vie, il nous donne la vie éternelle. Il est aussi le sens de notre vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20. Il est le sens de notre vie. Et quatrièmement, il nous a envoyé sa vie en nous par le Saint-Esprit. Jean 14, verset 16 à 17. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Christ en nous. Comme question pour nous, aujourd'hui, quel est notre chemin? Quel est ton chemin? Est-ce que tu es certain d'avoir choisi Jésus comme ton chemin de ta vie? Si oui, est-ce que tu vis ta vie en conséquence? Est-ce que tu sais dire non aux tentations et oui aux bonnes œuvres? Est-ce que tu utilises ton temps pour glorifier Dieu? Et sinon, c'est probablement que peut-être pour un temps, tu t'es éloigné du chemin qui est Jésus. Et si c'est le cas, je t'invite de tout cœur à revenir vers lui. Jésus a donné sa vie pour que nous ayons sa vie. C'est simple, on le sait déjà, mais c'est la réalité et je crois même que c'est le sens de notre vie. Par rapport à la vérité, est-ce que tu considères que Jésus-Christ est l'unique vérité? Ou est-ce que tu crois qu'il y a d'autres manières d'être sauvé? D'autres vérités? Est-ce que tu es capable de l'expliquer à ton prochain que Jésus est la seule vérité? Aujourd'hui, on est dans une société qu'on appelle postmoderne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de position claire sur ce qu'est la vérité. À chacun sa vérité, dira-t-on. Mais je crois que dans cette société postmoderne dans laquelle on est, Jésus, le message biblique, a toute sa place. Et pour ceux qui me connaissent, il y a deux semaines, dans mon travail, je suis ingénieur en environnement, il y a deux semaines, j'ai été convoqué par les patrons de la boîte. Je viens d'arriver, je pose mes affaires, il fait « Ouais Clément, on aimerait te parler ». Je fais « Ah bon, bah, ok ». Il n'y avait pas de rendez-vous à la base, donc ils m'ont juste pris comme ça. Donc c'était les deux patrons. Et ils me disent « Tu sais Clément, on a entendu parler, on a eu des retours de personnes qui sont venues dire d'autres personnes qui nous l'ont dit, que tu aimes bien parler de religion. » Je fais « Ah ah !» Et tu sais, avec l'actualité, avec tout ce qui se passe, voilà, on pense qu'il faut vraiment éviter de parler de religion parce que voilà, c'est un sujet qui peut mettre mal à l'aise, etc. Tu comprends. C'est comme la politique, on essaie de pas en parler. Voilà, c'est. Et ça m'a fait un peu sourire en coin parce que Oui, effectivement, j'aime parler de religion et j'aurais dit ça. Je dis, bah, j'aime bien parler de ma foi parce que c'est quelque chose que je vis. C'est pas simplement le fait d'aller à l'église le dimanche. Mais les seules fois où j'en parle vraiment avec mes collègues, c'est pas pendant les heures de boulot. C'est pendant soit les pauses, soit pendant les repas, déjeuner, etc., qu'on est posé en dehors du travail, ou lors des pots de départ, lorsqu'on va boire un verre, ou voilà. Donc, je suis vraiment vigilant sur ça. Donc voilà, je leur ai dit ça, et ils m'ont dit, oui, de toute façon, on a... Et après, je leur ai dit, mais vous savez, est-ce que vous avez des preuves? Est-ce que vous savez dire exactement à quel moment je l'ai fait? Parce que moi, je suis certain que je l'ai pas fait. Mais si vous êtes certain, enfin, si vous avez des preuves, je suis prêt à aller peut-être voir ces personnes-là ou m'excuser, mais voilà. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, mais si une personne avait été gênée, et je pense que c'est ça, en fait, je pense qu'il y a des personnes qui ont su que j'ai parlé à d'autres personnes, et du coup, ces personnes-là, elles ont été gênées. C'est-à-dire que les personnes à qui j'ai parlé, on a toujours des super contacts. Des gens qui font, ah ouais, c'est super intéressant. Enfin, ils m'ont même raconté leur vie, donc je pense pas que c'est ces personnes-là qui... Mais d'autres personnes ont été gênées. Et ces personnes qui ont été gênées, bah voilà, elles sont allées dire des choses à au-dessus. Et ça m'a fait sourire parce que c'est un peu comme la cour de récréation. Ouais, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il paraît que toi... Je veux dire, on est des personnes adultes. Si vraiment cette personne est gênée, elle vient me voir, on en parle, je peux m'excuser s'il y a lieu de m'excuser, mais aller le dire à quelqu'un qui va le dire à quelqu'un qui va le dire au patron, ça fait un peu maître, on m'a fait ça. Je suis Voilà. En fait, ça m'a étonné, mais à moitié. Je savais déjà que ça parle beaucoup, vous savez, au travail, ça parle beaucoup. On s'en rend pas compte, mais... Ça parle énormément. Tout le monde se compare. Et bon, là, c'était juste la confirmation que c'était le cas, quoi. Donc, j'étais pas totalement surpris par rapport à ça. Donc, j'ai dit, ok, en tout cas, je resterai vigilant par rapport à ça. Et j'aurais rajouté, vous savez, aujourd'hui, on est dans une société postmoderne. Et du coup, ce que je trouve... Je pense que voilà, chacun a un peu sa vérité. Moi, je crois à quelque chose, mais je trouve ça assez étonnant que on dise que c'est intolérant d'être intolérant, parce que quand vous dites ça, vous êtes vous-même intolérant en fait. Vous voyez? Quand vous dites ça à quelqu'un, non, mais c'est intolérant d'être intolérant par rapport à des positions de la Bible notamment. Mais quand vous dites ça, vous êtes vous-même intolérant avec la personne à qui vous venez de dire ça. Moi, j'ai voulu dire ça au patron sur le moment. Puis après, bon, voilà, ils m'ont dit, de toute façon, Clément, c'est pas un reproche. C'est juste, voilà, on veut juste t'avertir. Enfin, te prévenir, voilà, qu'il y a des choses qui se disent. Mes amis. J'aurais pu dire que, devant eux, que ma position au travail, elle est préférable à la religion. J'aurais pu leur dire, comme dans acte 4, ou acte 5, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. J'aurais pu dire aussi, vous savez, c'est les personnes que je connais les plus célèbres qui ont été accusées alors qu'on n'avait pas de preuves, bah c'était Jésus, Christ et Étienne. J'aurais pu leur dire ça, mais je l'ai pas fait. J'aurais pu leur dire aussi que Jésus était une vérité parmi tant d'autres. Mais non, j'ai dit que j'avais une foi et je pouvais pas, voilà. Ma foi m'en empêche. Et j'ai été saisi par la grâce de Christ et je peux pas renier le sacrifice de Jésus pour moi. Et grâce au Saint-Esprit, je pense que je suis un chrétien qui travaille. Je suis pas un travailleur avec une étiquette de chrétien. Je suis un chrétien qui travaille et non pas un travailleur avec une étiquette de chrétien. Et mes amis, je crois que la vérité dérange. Mais elle reste la vérité. Jean 17, verset 17, ta parole est la vérité. Croyons-le. Et restons attachés à cette vérité chaque jour de notre vie. Troisième application par rapport à la vie. Jésus est la vie. Est-ce que nous croyons que Jésus vit en nous et qu'il est le sens même de notre vie? Ou est-ce que nous laissons notre péché prendre le dessus et nous cherchons alors à faire ce qui nous plaît? Le problème central du péché, c'est notre disposition intérieure de notre cœur à nous mettre à la première place. Par égocentrisme, alors chercher dans le dictionnaire, c'est cette tendance à ramener tout à soi, et aussi par notre égoïsme, tendance à privilégier son intérêt propre aux dépens de celui du reste du monde. Voilà. Donc, est-ce que je suis plus centré sur moi que sur les autres, et en plus, je suis centré sur moi, et en plus, je ne pense qu'à moi? plutôt que de penser à ce que Dieu veut pour moi. Jésus a montré l'exemple d'une vie vécue pour les autres. Dans Marc 5, il dira « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Il nous a encouragés, Jésus-Christ, à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Imitons Christ. Lorsque nous étions non-chrétiens, oui, effectivement, nous pensions à nous-mêmes, nous étions centrés sur nous-mêmes. Mais maintenant que nous sommes chrétiens, nous sommes appelés à nous centrer sur Christ. Et mais est-ce que c'est réellement notre cas aujourd'hui ? Question pour toi, question pour moi. Et si tu te sens concerné, ne te renferme pas et laisse le Saint-Esprit te toucher. Tu peux passer ? J'aimerais avoir un petit moment où on peut se mettre par groupe de deux et on puisse partager dans quel domaine personnel je peux dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et où la vie, ça dépend s'il y a des domaines où vous êtes plutôt la vérité, ouais, mais la vie, non. Enfin voilà. Et les domaines aussi dans lesquels je ne peux pas, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui m'en empêche ? Et prier ensemble après. Donc je vous laisse environ 10 minutes, voilà. Et après je reviendrai pour conclure. On va reprendre. Je vous invite à terminer vos prières, du coup. Voilà. Donc, je pense que pour avoir entendu le brouhaha derrière, qu'il y avait vraiment matière à discuter, à se remettre aussi, je pense, en question. Et j'espère encore plus à s'approprier cette vérité, cette révélation de Jésus-Christ à ses disciples, qui n'était pas seulement pour les disciples, mais qui était aussi pour nous aujourd'hui. Et voilà, pour conclure, nous avons vu que dans un premier temps, Jésus était notre maison et notre réconfort, que on devait se fortifier, que notre cœur ne se trouble pas et prendre courage, comme c'était le cas de Josué, quand Dieu lui a parlé directement dans Josué 1. Et parce que Jésus-Christ nous prépare une place dans le ciel, et en plus parce que déjà il vit en nous à travers son Saint-Esprit. Et cette pensée, elle pourrait nous encore plus nous encourager dans notre vie. Et deuxièmement, on a vu que Jésus était le chemin, la vérité et la vie. On l'a chanté tout à l'heure avec Mike. C'est vrai que ça fait, je crois que ça fait 2 mois, je me suis rendu compte. Ah, mais en fait, merci pour le chemin, la vérité, pour la vie, pour la vérité et pour le chemin dans entend mon cœur. Et j'ai fait, ah oui, c'est Jean 14, mais j'ai jamais remarqué, ça fait au moins, je sais pas, 10 ans que je chante ce chant, mais c'est, voilà, des fois on chante des chants juste parce qu'on les chante et après on se rend pas compte qu'il y a des paroles vraiment clés dedans. Donc voilà. De vraiment vivre ça et se poser cette question, est-ce que cette affirmation, elle change entièrement notre façon de considérer notre propre vie ou pas? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je crois de tout mon cœur que Jésus est la vérité? Est-ce que je vis désormais ma vie pour Christ? On a vu donc que Jésus était le seul chemin qui nous permet d'aller au ciel. Et ma question, c'est que vais-je faire de cette vérité? Est-ce que je vais la garder pour moi ou est-ce que je vais la partager à d'autres? Dans Jean 14, 17, donc les deux chapitres, enfin 14, 15, 16, 17, les quatre chapitres qui sont dans Jean, vous verrez si vous lisez que Jésus va expliquer que en attendant son retour, le Saint-Esprit sera en nous et qui nous aidera à tenir ferme dans notre foi. Donc n'hésitez pas à lire Jean 14, 17 lorsque vous serez chez vous. Moi personnellement, j'étais un peu forcé de le relire récemment parce que avec Stéphane, on lit Jean ensemble. Donc on a fait les 7 je suis, là on est en train de faire 14, 15, 16, 17 jusqu'à la fin. Et en fait, c'est vraiment hyper encourageant. On a l'impression que c'est Stéphane lui-même qui me disait, hein, que Jésus-Christ nous parle directement. Vous savez, quand Jean 17, Jésus dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront à travers leurs paroles. Et en fait, Jésus-Christ prie pour nous. Et c'est vraiment, on se rend compte que c'est les derniers mots de Jésus-Christ, ces chapitres. Et c'est vraiment profond. Donc, je vous invite aussi à retourner à Jean et à lire l'évangile de Jean, et en particulier ces chapitres qui pourront encore plus, je pense, nous encourager à tenir ferme dans notre foi. Voilà. Je vous invite à prier pour terminer. C'est notre Dieu, merci parce que tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Merci parce que également tu nous prépares une place dans le ciel, Seigneur. Merci parce qu'en attendant, Seigneur, tu nous as donné un gage de cette assurance, Seigneur, à travers le Saint-Esprit qui vit en nous, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, pour que tu nous diriges encore, Seigneur, que tu nous aides, Seigneur. Tu vois que il y a des choses qui ont été partagées, Seigneur. Vraiment, je te prie pour que on ne puisse pas nous les oublier, Seigneur, mais que vraiment on puisse travailler sur ces points qui restent encore à travailler, Seigneur, pour être encore plus semblable à toi, Seigneur, être encore plus semblable à Jésus-Christ, Seigneur. Que vraiment notre vie puisse être vécue non pas pour nous-mêmes, mais qu'elle puisse être vraiment vécue pour te glorifier et te mettre à la première place en tout temps, Seigneur. Seigneur, je te prie toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.